Ammonites, avec un certain Naash, là, s'était promis de remporter la victoire sur les Israélites et de crever un œil à chaque homme pour prouver sa force, sa domination. Vous imaginez, ça a été un peu difficile. Et la première réaction du peuple, quand il a appris ça, ça a été de pleurer. Alors, les gens de Jabesh ont demandé de l'aide au reste du peuple, et le reste du peuple a pleuré. Alors, c'était pas des bons pleurs, je pense. Dans leur cas, c'était vraiment, on ne sait pas quoi faire, alors bon, alors on ne fait rien. Quand on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien. C'était pas l'idéal. Alors, Philippe m'a fait remarquer qu'il y avait d'autres sortes de pleurs dans la Bible. Hein, ce n'est pas les pleurs de défaitisme. Oh, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont endurer? On ne peut rien y faire. Mais c'est les pleurs qu'on peut avoir quand on se tourne vers Dieu pour intercéder. Hein, les pleurs de ceux qui s'aiment. Hein, ceux qui s'aiment avec larmes récolteront avec des chants d'allégresse. Et je crois qu'il y a des pleurs qui sont productives dans la foi. Mais les pleurs des Israélites, là, n'étaient absolument pas productifs. C'était, je baisse la tête et, oh, pauvre de nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Pauvre de la ville de Jabesh, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais c'est vrai que parfois, dans la Bible, et il voulait le souligner, il y a des pleurs qui sèment quelque chose. Hein, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Jésus l'a dit. Et puis, Néhémie aussi. Hein, qui dit « Je m'assis et je me mis à pleurer sur la ville ». Mais ce n'était pas des pleurs d'impuissance ou de pitié de soi. C'était les pleurs de quelqu'un qui prend conscience de la réalité, mais qui se prépare à l'action. Et on va voir justement, on a vu hein, que Saül s'est préparé à l'action. Lui, quand il est rentré derrière ses bêtes, il a demandé ce qui se passait. Et il a dit quoi ? « Ben non, là, ce n'est pas possible. Hein. On y va. » Il a été rempli de l'esprit et il a préparé la guerre. Donc vous vous souvenez que la guerre a été gagnée, ils ont remporté la victoire et on en était arrivé là à peu près la dernière fois. Et on va s'arrêter sur un petit passage qui m'a intrigué. Une fois qu'ils ont eu la victoire, tous les survivants même se sont dispersés. Victoire vraiment flagrante, énorme. Et là, c'est curieux ce qui se passe. Le peuple dit à Samuel, vous remarquerez qu'il s'adresse à Samuel. Le peuple dit à Samuel, mais qui est-ce qui disait, est-ce que Saül sera notre roi? Livrez ces hommes et nous les mettrons à mort. Mais Saül dit. Là, c'est Saül qui répond, Samuel ne dit rien. Mais Saül dit, on ne mettra personne à mort en ce jour, car aujourd'hui le Seigneur a réalisé une victoire en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez, rendons-nous au Gilgal pour y confirmer la royauté. C'était un peu un test. Donc là, on constate que Samuel, notre prophète, dont on a suivi la vie hein, depuis l'année dernière, il est visiblement resté aux côtés de Saül pendant tout ce temps. Il ne disait rien, mais il était présent. Et on va assister à une sorte de passation de pouvoir. Il reste à côté du roi, mais il va faire une sorte de passation de pouvoir. Jusqu'à présent, il était juge, c'est-à-dire leader aussi de l'armée, et il était aussi prophète, l'homme de Dieu qui dirigeait le peuple, qui était sacrificateur aussi. Et il reste à côté de Saül, et il va confirmer la royauté. Dans quelques minutes, on va le voir. La victoire sur Naash, dont cet ammonite, a complètement galvanisé le peuple d'Israël. Ceux qui étaient favorables à Saül, ils sont doublement satisfaits. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Ah, c'est le roi qu'il nous fallait. Ah, on a gagné. Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu la victoire qu'il a remportée? Vous avez vu sa stratégie, là, trois groupes pour encercler la ville? Et voilà, vous n'aurez pas l'œil crevé. Grâce à qui? Grâce à nous, parce qu'on a cru que Saül aurait la victoire. Vous imaginez un peu la scène hein, avec des humains comme nous. Hein, ils sont doublement satisfaits, ils avaient raison. Puis tout d'un coup, en causant comme ça, ils se rappellent de quelque chose. Non mais vous vous souvenez, ces vauriens, ces hommes de rien qui s'étaient moqués de Saül. Alors on retrouve ça un petit peu avant. Hein. C'était chapitre 10, verset 27. « Il y eut toutefois des hommes sans morale qui disaient quoi ? c'est celui-ci qui nous sauvera. Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais il garda le silence. Ah, au moment où il avait été désigné comme roi par le tirage au sort, après avoir été oint dans le privé par Samuel, il y a eu un groupe de vauriens. La Bible parle de fils de Baal, vraiment des gens qui ne valent pas grand-chose, et qui s'étaient moqués de lui. Ah, si c'est lui qui va nous délivrer, ben on voudra bien voir ça. Il le croyait incapable de sauver le peuple. Il l'avait ouvertement méprisé lorsqu'il avait été acclamé comme roi à Mitzpah. Et là, ça chauffe. Ça chauffe pour cela. Hein, parce que le peuple dit, ah, mais... Est-ce que vous vous souvenez, qui est-ce qui disait, est-ce Saül qui sera notre roi? Eh bien, ces gens-là, maintenant, on va les mettre à mort. C'est la fête. On a eu raison, ils ont eu tort, on va les mettre à mort. Oh, ça, c'est bien l'esprit humain, hein? Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est que Samuel, qui était leader, il montre que c'est terminé maintenant. Il y a un roi. Et il ne répond pas à la place du roi. Et je pense que pour lui, son cœur a dû battre. Comme tous les vieux qui mettent des jeunes en piste. Parfois, notre cœur bat un peu, on dit, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va passer le test? Il va faire bien ou il va faire mal, hein? Et ça, c'est le rôle de tous les vieux. Quand on met les jeunes en route, hein, on a soit avec nos enfants ou dans l'église, il va y arriver ou il ne va pas y arriver, hein. Je me souviens des grosses frayeurs que nous avait fait Arnaud quand il a commencé à prendre le groupe de jeunes en nous disant « Mais j'ai jamais fait ça, j'y arriverai pas. » Et « Il va y arriver ou il ne va pas y arriver, hein ?» Bon, il est arrivé, pas de souci. Alors, le problème, c'est il se tait et il attend. Et j'imagine vraiment son angoisse, hein. Pourvu qu'il ne se plante pas et qu'il n'annonce pas un massacre un jour de victoire. Pourvu que, mais il ne bouge pas. Il attend de voir. Alors ces braves gens, ils n'ont pas le triomphe modeste, hein. Maintenant qu'ils sont sûrs d'avoir raison, que Dieu a confirmé leur choix par une grande victoire, ils sont du côté du plus fort. Dans le monde, ça c'est terrible, hein. Alors il faut supprimer les moqueurs, il faut supprimer les opposants. C'est une réaction parfaitement charnelle, parfaitement naturelle, pour employer un mot plus moderne. Mais Saül est toujours rempli de l'esprit, vous vous souvenez? Il n'est pas rempli de sa chair à cette époque-là. Il est vraiment rempli de l'esprit de Dieu. Et il va exercer l'autorité, non pas en son nom, parce qu'en son nom, il aurait pu zigouiller tout le monde, mais au nom de l'Éternel. On ne mettra personne à mort. Ah, là, il y a première réaction, enfin la deuxième, parce qu'il avait déjà conduit l'armée. Deuxième réaction, qui est une réaction royale. Bon, maintenant, je suis roi, je prends mes responsabilités. Et je donne un ordre. Il rentre enfin dans son rôle. Vous vous souvenez au début comment il s'était planqué derrière les bagages et tout, hein, il n'était pas... Puis là, il était bien derrière sa charrue et là, il a compris. L'Esprit de Dieu est sur lui. Il prend son rôle au sérieux. On ne mettra personne à mort. C'est un ordre complètement ferme. Pourquoi? Parce que le Seigneur a réalisé une victoire. Pas le peuple, pas même Samuel, mais le Seigneur. Et on voit là qu'il est encore petit à ses yeux. Et là, je voudrais que vous appréciez Saül comme moi je l'ai apprécié, parce que jusqu'à présent, je me servais toujours de l'histoire de Saül pour la mettre en contraste avec David. Hein. À l'école, là, pour mes cinquièmes, chaque année, j'étais là, ouh, le vilain Saül, hein, qui a mis la faute sur les autres, et David qui a reconnu sa faute quand ça a été nécessaire. Et là, j'ai quand même eu beaucoup de sympathie pour cet homme qui démarre bien. Donc, il faut se rappeler qu'il a bien démarré. On va se concentrer un peu sur cette période où il a bien démarré. Il est petit à ses yeux. Il sait que ce n'est pas lui, Saül, le responsable de la victoire. Il le sait. Il n'a pas peur de donner des ordres en tant que roi, mais il n'a pas peur de reconnaître que c'est le Seigneur qui donne la victoire, pas Saül. Ouh, il est super, là, Saül. Et là, j'ai pensé à deux, trois petites choses. Vous vous souvenez, dans l'épître de Jacques, je crois que c'est au chapitre 2, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Dieu dit aussi dans Deutéronome 32, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et j'ai pensé à se centrer sur la victoire de Dieu, c'est ce qu'il a fait, plutôt que de se centrer sur l'opposition qu'il avait rencontrée. Alors vous allez me dire, ça s'applique comment dans ma vie, ça? Ne pas ternir nos victoires par des vengeances personnelles. Alors je vous donnais un petit exemple qui m'a beaucoup parlé, moi. J'étais 25 ans adjoint au maire, donc dans ma commune, et les élections du troisième mandat avait été très tumultueuse, je pense qu'Evelyne s'en souvient, parce qu'elle est dans le village, et notre équipe a gagné, donc je me suis retrouvée première adjointe là, Et là, j'attendais un peu des réactions parce que, pour une fois, ça avait été assez tumultueux, les gens avaient été assez féroces avec nous. Moi, étant dans l'équipe, j'avais exigé vraiment qu'on ne réponde pas, qu'on ne fasse même pas de réunion politique. J'avais dit, on n'était pas politisés, mais enfin, pour soutenir notre liste, j'ai dit non, c'est pas la peine. Les fêtes, la droiture, mais pas de bagarre. Hein. Donc on avait évité. Mais c'était chaud quand même. Et une fois qu'on a gagné assez largement, hein, j'attendais un peu de voir la réaction de chacun. Maintenant, on est les plus forts. Maintenant, c'est nous qui avons le pouvoir. Et j'étais étonnée de deux choses. La première, c'est que quand on s'est retrouvés victorieux, là, chez le maire, pour prendre le champagne, on a cherché dans les équipes adverses qui pouvait faire vivre la commune avec nous. Et croyez-moi, pour des gens qui ne sont pas officiellement chrétiens, moi, ça m'a frappée. Ils disaient, vous savez, un tel s'était présenté dans telle liste contre nous, mais il connaît bien les chemins, il connaît bien, etc. Il faut absolument qu'on lui demande de s'associer à la commission travaux. C'était la mienne, d'ailleurs, donc j'étais contente, parce que c'était quelqu'un de très compétent. Et puis tel autre, il s'est mis dans cette liste adverse, mais il a telle et telle compétence pour tel et tel domaine. On va lui demander de nous rendre service, de travailler avec nous. Ah, pas de vengeance, pas de dire on est maintenant les plus forts, donc on va leur faire sentir hein, qu'ils ont lutté contre nous, ils nous ont traités de tous les noms, petits noms d'oiseaux, assez comique d'ailleurs, c'est pour bon. Et ça m'a beaucoup touchée de la part de gens qui n'étaient pas officiellement chrétiens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voulait faire la fête de départ du maire, de l'ancien maire, qui était une femme très chouette, mais qui, à la fin, nous avait créé pas mal de soucis et de problèmes, malheureusement. Et le maire était quelqu'un de très vocal, comme disent les Anglais, une grande bouche. Et je lui ai dit, écoutez, il faut lui faire un discours. Elle a travaillé 24 ans, elle a fait quand même beaucoup de choses pour la commune. C'est pas parce que ces derniers mois, elle a été désagréable avec nous, qu'il faut se venger. Et je me suis dit, pourvu que ça marche. Et le maire lui a organisé une fête avec un discours qui lui a tiré les larmes, alors qu'ils se sont chamaillés, je ne vous dis pas, pendant des années. Et elle a demandé le texte. Et en sortant, et là, c'est ça, cette réflexion qui m'a touchée, le maire m'a regardée et m'a dit, je lui ai dit, oui, ça s'est bien passé. Il m'a dit, ah oui. Et en plus, c'était moral. J'avais envie de dire, en plus, c'était chrétien. De rendre le bien pour le mal et de regarder le bien qu'avait fait cette femme. De ne pas profiter de sa position de triomphe. Vous savez comment c'est dans les élections. C'est nous maintenant qui sommes aux commandes. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais au contraire, de tendre la main aux opposants, de féliciter les gens qui nous avaient créé des ennuis parce qu'ils avaient quand même fait du bon boulot pendant des années. Voilà. Et ce qui fait que ça a rétabli une paix dans la commune, ce qui fait qu'aux élections suivantes, il n'y a eu aucune liste qui s'est présentée contre nous. Zéro. Ça explique. Ça explique. On n'était pas politisés. Hein. Mais Evelyne l'a vécu, hein, ça a été une période assez calme. Et je crois vraiment que la grâce de Dieu était là parce qu'on n'a pas, justement, comme Saül, retombé, on n'est pas retombé sur les gens qui s'étaient opposés à nous. Rendre le bien pour le mal, ce n'est pas un mythe. Et alors j'y pensais parce que dans toutes nos relations humaines, c'est vrai. La famille, le travail, l'église, la société en général. Il y aura toujours des gens qui ne nous aiment pas. Qui ne nous acceptent pas, qui ne nous reconnaissent pas dans notre rôle, hein, quel que soit le rôle, famille, amis, église, travail, société, voisin, enfin, vous en aurez toujours. Hein. Souvent, c'est à cause de blessures. C'est des gens qui ont été blessés, et alors, je ne sais pas, quelque part, vous leur portez sur les nerfs, et voilà. Ils ne voient que nos défauts, ils n'ont pas du tout envie de nous aider. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on profite de notre position, admettons? C'est un employé, vous êtes chef, c'est un élève, vous êtes prof, c'est quelqu'un de la famille et vous êtes le plus âgé. Enfin, imaginez différentes configurations au travail, hein, vous avez une promotion, ils vont voir maintenant, hein, maintenant que c'est moi le chef. Hein. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? De ne pas rendre le mal pour le mal. De ne pas rendre le mal pour le mal. Restons dans l'esprit du Seigneur. C'est notre vie, c'est notre façon d'agir qui va changer les choses. Moi, je l'ai vécu. Hein, à la mairie, je l'ai vécu. Et je pense qu'on peut le vivre dans les familles, etc. S'il y a un membre de la famille qui nous déteste, peut-être parce qu'on a dit quelque chose de pas bien, ou on a un jour, on a... Voilà, ça arrive, hein, on n'est pas parfait. Comment faire? Eh bien, vivre notre vie chrétienne, comme a fait Saül. Allez, on fait la fête, ok, on y va. Je me souviens d'une jeune fille qui était venue me voir dans l'église il y a des années, en me disant, moi, les gens ne m'acceptent pas, les gens me rejettent, etc. Je dis, tu sais, tu as un comportement quelquefois qui n'est pas facile. Il y a peut-être des raisons. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour récupérer la situation? Ah, j'ai là, tu ne peux rien faire du tout. Tu vis simplement comme le Seigneur te demande. Puis tu verras qu'au fil des mois, au fil des années, les gens vont voir que tu changes, tu es différente. Et tout doucement, ils vont te réaccepter. C'est pas la peine de se battre, c'est pas la peine de mordre les gens, c'est pas la peine de les secouer, de les accuser, de les culpabiliser. Vis ta vie avec le Seigneur, cool. Et ils vont voir que tu as changé, que tu grandis avec le Seigneur, et ils vont te réaccepter. Il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est un petit peu ça. C'était un temps de fête, Saül dit, eh bien, on fait la fête, on ne va pas aller assassiner les autres qui ont été désagréables. Et c'est ce verset que j'aime tant, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Et je pense que c'est la bonté de Saül, ce jour-là, qui a été formidable. Il avait tout en main. Vous savez, c'est une époque où on ne faisait pas de quartier. Vous voyez un peu Daesh aujourd'hui? C'était ça à l'époque. Hein. C'était à peu près la même chose. Ça ne va pas, pouf, on te tue. On te décapite, on te lapide. Ou voilà. Hein. Et il avait le pouvoir, c'était dans l'air du temps, dans l'époque, mais il ne l'a pas pris. Et je pense que c'est une grande leçon pour nous. Chaque fois qu'on est en position de supériorité, qu'on a eu une promotion, un triomphe quelconque dans n'importe quel domaine, ou simplement qu'on est le plus âgé dans la famille, etc., acceptons qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Et ça ne nous empêche pas de faire la fête, quelque part, hein, comme Saül. Bon, ok, j'ai des gens qui ne peuvent pas me piffrer. So what, on ne va pas les assassiner, on ne va pas en faire un jour de deuil. On fait la fête, ok? On ne mettra personne à mort. Alors, malheureusement, on ne peut pas s'empêcher de penser quelle attitude différente il va avoir quand il se laissera gagner par la jalousie. Quand David va grimper et que sa réputation avec Goliath et tout ça va être énorme, et là, la jalousie va rentrer dans le cœur de Saül, ce ne sera plus le même homme. Et il ne pensera plus qu'à tuer ce pauvre David qui l'aimait énormément et qui était prêt à l'aider. Voyez comment ça peut changer un homme rempli de la bonté de Dieu, qui a été capable de ne pas tuer ses opposants, qui va être capable de vouloir tuer son meilleur ami, son plus grand soutien, qui vient de tuer Goliath. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, de pas net. Mais pour l'instant, on va rester sur le bon Saül. Là, il est rempli de l'esprit, il sait qui est le vrai vainqueur, il sait que le peuple est au bénéfice du Seigneur, pas au bénéfice du roi Saül, et que les victoires du peuple appartiennent au Seigneur. Ça, c'est toujours se rappeler. Mes victoires, soit si j'ai une promotion au travail, etc., ça appartient au Seigneur. Et que notre amour propre n'a rien à voir là-dedans. Il est petit à ses yeux, il pense plus au donateur qu'à ses dons, il pense plus au Seigneur qu'à sa royauté, aux intérêts du peuple, ça c'est important, hein, nous dans la commune, je me souviens c'était ça, quel est l'intérêt de notre commune? Est-ce que c'est qu'on se venge ou qu'on se serve des compétences des uns et des autres? L'intérêt du peuple, voilà. L'intérêt du peuple là c'était de se réjouir, pas de se venger, il ne cherche pas à flatter son orgueil, on se réjouit. J'imagine effectivement la joie dans le cœur de Samuel. Hein. En vieillissant, je me dis, voilà là, le bon vieux Samuel, il avait tellement souffert des fils d'Élie qui faisaient n'importe quoi. Puis il avait, à part le jour où Dieu lui a dit de parler, le reste du temps, je pense qu'il restait bien tranquille. Il avait tellement souffert des malhonnêtetés des fils d'Élie. Quelle joie ça a dû être dans son cœur de voir un homme fort, qui venait de remporter une victoire extraordinaire, mais humble, à l'écoute de Dieu, qui ne cherche pas à se venger. À l'écoute du peuple aussi, qui veut exprimer sa joie sans mélange, une joie qui n'aurait pas pu s'exprimer sur la mort des autres, c'est clair. Quelle joie pour Samuel, quelle joie de se dire, waouh, ouais, c'était le bon roi. C'est pour ça, mais je m'étais toujours demandé pourquoi Samuel a vu tant de tristesse quand Dieu a rejeté Saül. Ben oui, il était attaché à ce grand gaillard-là qui était fort, qui était bon, qui était sympa, qui était compréhensif, qui était humble. Il s'était attaché, c'est ça se comprend. C'est un peu ce qu'on ressent quand nos jeunes leaders choisissent la sagesse. Hein? Quand nos jeunes, nos enfants, ou les jeunes dans l'église, quand ils choisissent un chemin de sagesse, on a cette joie et on s'attache évidemment. Hein? Samuel est donc convaincu. Il décide de rassembler le peuple à Gilgal pour célébrer et confirmer la royauté. À noter, Gilgal, c'était l'endroit où s'est fait l'entrée en Canaan. C'est aussi l'endroit où le premier roi va être confirmé. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, les endroits dans la Bible, ils ont souvent un sens, c'est comme les noms. C'est un endroit qui était lourd de sens. C'était l'entrée en Canaan, l'entrée dans une nouvelle saison. Et là, ça va être l'entrée dans une nouvelle saison avec un roi. Alors, pour terminer cet épisode, il faut se rappeler que Dieu n'était pas tellement d'accord pour un roi à cause de leur motivation. C'était trop tôt, c'était pour avoir un roi comme les autres nations, vous vous souvenez? Et c'était surtout, et c'est ça qui est le plus lourd, et plus j'étudie ce texte, plus je m'aperçois que c'est ce qui pesait au cœur de Dieu. C'était, il voyait le peuple qu'en avait marre, à chaque fois qu'il y avait un problème, d'aller se mettre à genoux pour crier à Dieu et demander un libérateur. Et je me suis dit, mais est-ce que nous, parfois, c'est pas un peu comme ça aussi? Est-ce qu'on n'a pas, quelquefois, marre de dire, faut encore que j'aille demander à Dieu d'intervenir, et lui demander pardon parce que j'ai dit une bêtise ou j'ai fait une bêtise, et puis maintenant, il faut qu'il intervienne, et puis... C'était ça qui leur pesait. Sûr, j'ai beaucoup parlé du fait de vouloir être comme les autres nations. C'est une grosse partie, mais il y avait ça aussi. À chaque fois, on est obligé d'aller demander un libérateur, nanana... Oh, qu'est-ce que c'est, hein? Si seulement on avait un roi. On va voir le roi, on lui dit « Délivre-nous! Fais la guerre! Pars avec l'armée !» Et nous, on est tranquille. On n'a pas besoin d'aller voir le Seigneur. Et c'est ça qui a fait mal au cœur de Dieu. J'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, c'est ça qui a fait le plus mal au cœur de Dieu. Ils ne veulent plus venir me voir quand ils ont un problème. Ils ne veulent plus venir me voir. Ils préfèrent aller voir un autre homme. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça. L'Éternel était invisible. Mais c'était lui le roi sur Israël. C'était difficile, c'était exigeant, c'était relationnel. On retombe toujours là-dessus. Hein. Avec Dieu, c'est une relation, c'est pas une religion. Ça veut dire chaque fois que j'ai un pépin, chaque fois que j'ai un truc, il faut que j'aille le voir. Et vous avez remarqué ce que je dis, il faut. Et on n'aime pas. Hein. On n'aime pas, il faut, je dois. Oh. Et cette relation, elle s'entretient comme toutes les relations. Hein. Si vous avez des amis que vous ne voyez plus, bah, vous avez beau les aimer, petit à petit, la relation, elle se dessèche. On n'y peut rien, c'est la vie. Et avec Dieu, c'est pareil. Si je ne vais pas le trouver, chaque fois que j'ai un pépin, chaque fois que je suis heureux, chaque fois que je veux le remercier, etc., si je n'entretiens pas cette relation, elle va se dessécher. Et c'est sûr que je vais finir par demander une aide humaine. Beaucoup plus simple, beaucoup plus proche, voilà. Il voulait un intermédiaire visible. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Dieu a quand même répondu. Il a dit à Samuel, ouais, je sais très bien, c'est pas après toi qu'ils en ont, t'inquiète pas, c'est après moi. Ils veulent plus de moi comme roi. Et Dieu a un cœur. Et cette partie-là, nous, on n'y pense pas toujours. Il sent aussi le rejet. Ah, vous avez réfléchi à ça? Quand nous, on se détourne de Dieu pour faire nos petites affaires entre humains et qu'on ne va pas vers lui, il sent aussi le rejet. Et je ne peux pas m'empêcher de vous re-raconter l'histoire de Colin Urquhart, qui pendant cette période de réveil, il y avait des guérisons, des miracles, etc. Tous les soirs, bien épuisé, il prenait son chien pour la promenade, et puis il allait fermer l'église. Mais avant de fermer l'église, il s'asseyait au bord d'un banc. Et il restait là calmement devant Dieu, se reposer, adorer Dieu, tout calmement. Et il disait que son chien se mettait au milieu de l'allée, puis levait la tête comme ça, et ne bougeait plus pendant tout le temps qu'il priait. Il devait en faire autant. Et cette histoire m'a bien plu, pas seulement à cause de ça, mais parce qu'un soir, il était tellement épuisé, mais épuisé de chez épuisé, là, il ne pouvait plus. Il avait prié pour des dizaines de gens, il avait, depuis le matin, il était debout, il avait quand même une famille à l'époque avec deux ou trois enfants. Il était épuisé et il allait mettre la clé dans la serrure pour fermer l'église quand il dit « Seigneur, tu m'excuseras, mais ce soir, je ne peux pas. » Et ce qu'il a senti le Seigneur lui répondre dans son cœur, ça m'a énormément parlé. « Oh, c'est dommage, Colin. J'aime tellement ces moments passés avec toi. » Il a craqué. Il est rentré, il a prié. Enfin, il a prié, il a adoré Dieu calmement. Mais... Et c'est là que j'ai réalisé aussi, mais il sent aussi le rejet. Hein, quand vous n'avez pas envie de prier, quand nous n'avons pas envie de prier, hein, ça nous arrive tous. Quand on n'a pas envie d'aller vers lui, il nous dit pareil qu'à Colin. C'est dommage. J'aime bien quand tu viens me voir. On n'y pense pas à ce côté du cœur de Dieu. Mais rappelez-vous qu'on a été créé à son image. Et il n'est pas là pour vous tomber dessus à coups de bâton, pour dire « Roule, vilain chrétien qui n'a pas prié depuis deux jours. » C'est dommage. J'aime bien quand tu viens me voir. On n'a pas cette image de Dieu et pourtant c'est une vraie image de Dieu. C'est une vraie image de Dieu. Et Peut-être Julie pourra vous en parler plus. Elle m'a offert un livre pour mon anniversaire qui est absolument fantastique, qui est tout à fait dans cette veine-là, d'une femme que je connais depuis mes 16 ans et qui continue à prêcher et qui connaît Dieu de cette manière-là. Ça parle beaucoup au cœur. Hein, ça, je l'ai lu pendant les vacances. Là. Voilà. Non, je voulais vous le dire, ça c'est très très important. Alors ça nous parle de qui est Dieu, compatissant, lent à la colère, il veut le meilleur pour ses enfants. Il écoute leurs démarches, même quand elles ne sont pas justes. Et là, elle n'était pas juste. Il n'est pas dupe de nos motivations. Il fait tout pour nous prévenir et il nous délivre quand même. Parce qu'il pourrait dire, bon, écoute, tu t'es mis dans le pétrin, mon coco, hein, maintenant, tu y restes. Non, il crie, il vient, il tend la main. Et il participe même à leur réjouissance, là. Alors qu'ils lui ont brisé le cœur en disant, il y en a marre de venir tout le temps, demander une délivrance, on veut un roi, on veut s'appuyer sur un homme. Ça lui a brisé le cœur, mais quand même, il va participer à leur réjouissance. Waouh ! Combien de fois, quand nous, on le rejette, on ne veut pas aller vers lui, et quand même, il reste avec nous. Alors, ils vont faire un sacrifice de paix, c'est-à-dire quelque chose qui sert à maintenir, célébrer l'harmonie entre l'homme et Dieu. De la même façon que Saül ne rejette pas les hommes de rien qui l'ont rejeté, on va trouver la même relation. C'est là qu'on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Dieu ne rejette pas son peuple qui ne veut plus de lui comme roi. Et il y a souvent ça dans la Bible. Si vous regardez attentivement, vous allez voir qu'il y a des parallèles comme ça. Hein. De la même façon que Saül ne rejette pas les Vauriens qui l'ont rejeté, Dieu, lui, ne rejette pas son peuple qui l'a rejeté. C'est l'Esprit de Dieu. Tu me rejettes, mais moi je ne te rejette pas. C'est le seul qui est capable de garder l'alliance avec nous, c'est lui. Même quand nous, on le rejette. J'imagine qu'on a toujours des bonnes raisons de le rejeter, n'est-ce pas ? Ça, en tout cas, à notre avis. Alors, on va finir par le discours de Samuel, le discours d'adieu, qui va clore un petit peu. Je dis un petit peu parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait la fin de la vie de Samuel. On va retrouver Samuel dans 2 ou 3 autres épisodes, mais peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, on va terminer là-dessus. Donc Samuel a laissé Saül décider du sort de ses opposants. Le peuple s'adresse à lui, mais il laisse le roi répondre à sa place. Et en fait, il marque et il respecte la séparation des rôles. Très important, parce que le juge, il faisait tout. Maintenant, il y a un roi. Le roi est leader, il est chef de l'armée. Et attention, c'est lui qui exerce la justice en régnant sur le peuple. Samuel n'est plus que prophète. Cette partie-là, c'est fini, il l'a délégué. Et il le respecte. Par contre, il garde le prophète qui parle de la part de Dieu, qui fait les sacrifices et qui enseigne. Malgré son âge, sa célébrité, parce qu'il était célèbre, hein, le respect que le peuple a pour lui, il ne déborde pas. Et ça, j'admire chez lui, hein, cette grande sagesse. Il laisse le roi exercer son rôle. Il faut être capable de le faire. Et je crois que c'est pareil au travail, dans la société, je réfléchis aussi à ça, dans la famille, dans l'église, être attentif à ne pas prendre une place qui n'est pas la nôtre. Là maintenant, les places sont bien distinctes, il reste à sa place. Le grand Samuel, il reste à sa place. Et je pense que c'est important. Je pense particulièrement à prendre la place de Jésus. Vous allez me dire, ça ne m'arrive jamais. Attention. Merci. Il y a quelqu'un qui écoute. C'est lui le roi, Jésus. Attention, le Seigneur. Alors attention de ne pas prendre sa place. Vous allez me dire, non, moi ça ne m'arrive pas. Et quand on sert d'intermédiaire entre quelqu'un et Dieu, de trop, bien sûr, on peut aider les gens. Vous savez bien à quoi je fais allusion, mais attention de ne pas se mettre entre Jésus et les gens. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Hein, on a beau être le meilleur des chrétiens, on ne peut pas être équivalent de Jésus. Il faut toujours entraîner les gens à venir vers Jésus. Il est hors de question qu'on se mette dans le chemin, même si on est très chouette, très gentil, mais c'est Jésus l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Hein. Attention de ne pas se mettre en chemin. Alors on peut s'y mettre de différentes manières. Hein. Oh ben viens me voir, je vais prier pour toi. Non, va voir Jésus, il va te répondre. Mais oui, attention de ne pas créer des dépendances. Hein. Moi j'ai connu des chrétiens chouettes, mais qui créent des dépendances. Viens me voir, je prie pour toi. Viens me voir, viens, on va jeûner ensemble après. Mais c'est bien une fois de temps en temps, mais attention de ne pas créer une dépendance. Hein, si votre première réaction, par exemple, quand vous avez un pépin, c'est de téléphoner à quelqu'un plutôt que de prier, c'est feu rouge. Attention. Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de prendre la place de Jésus dans ma vie ? Attention de ne pas servir de locomotive. La locomotive, c'est Jésus. Attention aussi au fait de donner des ordres. Tu dois, il faut, etc. Bon, il ne s'agit pas de transmettre la parole de Dieu. Ça, c'est différent. On transmet ce que dit la Bible. Mais attention de ne pas remplacer Jésus dans la vie des gens. Hein. Et le danger, c'est particulièrement, les prophètes le disent toujours, hein, dans toutes les églises, quand il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Attention, on ne va pas les voir pour recevoir un conseil. On va voir Jésus. Attention, hein. Notre rôle, c'est de transmettre, de prier, de prendre soin des gens, mais pas de remplacer Dieu. Donc attention à la place qu'on prend, hein. Et y compris avec nos enfants. « Oh, maman va prier pour toi, ta-ta-ta. » Je me souviens de quelqu'un à qui j'avais dit « Mais prie !» et qui m'avait répondu « Mais ma mère prie pour ça. » Et j'ai répondu « Prie, toi !»« Mais maman, elle prie tout le temps pour ça !» 3 ou 4 fois, j'ai tenu bon, mais ça n'a pas porté de fruit. Mais... voilà, attention de ne pas se retrouver l'intermédiaire en tant que famille. Hein. On risque en tant que parent chrétien. « Oh, tu as un examen, je prie pour toi. » Non, va prier, révise, va prier. Puis moi, je prierai aussi. Hein, attention de ne pas se retrouver en intermédiaire. Hein. Eux aussi sont appelés à avoir leur propre relation avec Dieu. Voilà, au travail, attention aussi hein, de ne pas déborder de nos attributions. André dit toujours que c'est le propre des Français. Hein. Dans l'usine, ils aiment bien... regarder ce que fait l'autre et déborder un peu sur... voilà, pas rester à sa place, mais faire un peu le boulot de l'autre, parce qu'il est toujours plus intéressant, évidemment. Ça peut être dangereux au travail. Hein. Voilà. Mais dans beaucoup de domaines de la vie, hein, faire attention de bien garder la place que Dieu nous a donnée. Voilà. Et si Dieu nous donne des promotions, tant mieux. Alors, Samuel va décider de parler au peuple. Et là, je vous avouerai que j'ai passé du temps sur ce texte toute la semaine, en vacances. Parce qu'il me perturbait ce passage. Parce que je vais vous le résumer vulgairement. Ce que mon esprit humain voyait dans ce passage au départ, c'était Samuel qui parle au peuple et qui leur dit « Est-ce que vous avez quelque chose contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais là hein ?» Et tout le monde dit « Non, t'es innocent, t'as rien fait de mal avec nous, t'as été correct. » Bon, et bien maintenant moi, je vais vous dire un peu ce que vous avez fait de mal contre Dieu. Et ça fait un peu « Wow !» Alors, on va essayer de le voir autrement, quand même. D'abord, c'est curieux, il parle devant tout le peuple, hein, dit à tout Israël, hein, c'est le chapitre 12. Et il refait une sorte d'historique de l'histoire. « J'ai écouté tout ce que vous m'avez dit, j'ai mis un roi à votre tête. Maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. » Il marque bien les choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, il y a un roi, attention, c'est plus moi le leader, c'est plus moi qui exerce la justice, c'est plus moi le leader politique, c'est plus moi le leader militaire. Ok. Le roi est là, nouveau gouvernement. On sait qu'on a fait des sacrifices de paix, donc on avait renouvelé l'alliance et les réjouissances, le peuple était en fête. Alors, vous avez demandé, j'ai écouté, j'ai mis un roi, voici le roi qui marchera devant vous. Et c'est ce mot-là aussi qui m'a parlé, marcher devant vous. Ils cherchaient quelqu'un qui marcherait devant eux. C'est agréable de marcher derrière quelqu'un, hein, comme ça on est tranquille. Et dans toute la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on lit « Vous marcherez derrière votre Dieu ». Et eux, ils voulaient marcher derrière un roi. Et ça fait une différence. Je n'avais pas remarqué ça au début, mais là, on va le voir après. Il présente le roi, qui marchera devant vous, donc, puisque vous l'avez voulu, chef de l'armée. Il reprend mon rôle de leader politique et militaire. Et lui, il se présente. Voilà, il y a lui, là, et il y a moi. Moi, je suis âgé. Il recommence. Je suis vieux, j'ai les cheveux blancs. Mes fils sont avec vous. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur cette histoire de mes fils. Comme on savait qu'ils avaient un peu foiré, les fils de Samuel, on se dit, pourquoi il parle de ses fils, là? Alors, il y a deux options. Soit il les a destitués de leur rôle de sacrificateur pour les remettre dans le peuple, ce qui est une possibilité, parce qu'ils avaient pris de l'argent, ils avaient pris des pots de vin, ils n'avaient pas été honnêtes. Eux, c'était juste un problème d'argent, c'était quand même suffisant. Et donc, on pense ça. Ou alors, il leur dit, bah, voilà, ils sont au milieu de vous, ils font partie de la génération, la nouvelle génération. On ne sait pas, personne ne se décide dans les commentaires, donc je vous livre les deux interprétations. Et puis, il continue l'histoire. « Quant à moi, j'ai marché devant vous depuis ma jeunesse, jusqu'à ce jour. » Je suis là. Et il se pose comme si c'était un procès. Voilà, je suis là, votre roi il est là, mes fils sont au milieu de vous. Moi je suis là, j'ai été le leader politique et militaire, j'ai marché devant vous. Et là, on a encore cette notion hein, de marcher. J'ai marché devant vous. Ah, c'est vraiment c'est moi qui étais le leader. Hein. C'est la définition du leader d'ailleurs. Le leader, ce n'est pas celui qui commande, ce n'est pas celui qui ordonne, ce n'est pas celui qui est le boss. Le leader, c'est la définition exacte du mot leader en anglais d'ailleurs, hein, c'est celui qui marche devant. Et c'est curieux que c'est un verset qui revient tout le temps dans la Bible, marcher devant. Le leader, c'est quelqu'un qui marche devant. C'est-à-dire qu'il se prend les coups aussi, il teste le terrain, il est pionnier. Hein. Ce n'est pas un dominateur, c'est celui qui entraîne les autres derrière lui. Ce n'est pas la même chose que de commander. Hein. Dans les difficultés, dans les combats, dans les victoires, le leader, il est devant. Mais pas pour commander, pour entraîner derrière lui. C'est important à noter au passage. Et ça a été vraiment le rôle de Samuel. Deuxième point, il fait une sorte de bilan. Il veut une sorte de quitus, que les choses soient claires avant de quitter son poste. Marrant, hein ? Il veut que les choses soient claires avant de quitter son poste. Et il va jusqu'à dire, déposez contre moi devant le Seigneur et devant l'homme qui a reçu son onction. Donc attention, maintenant c'est lui qui est chargé de la justice. Il insiste là-dessus, hein, devant le Seigneur et devant celui qui exerce la justice en fait. Hein. Voilà, que les choses soient claires. Déposez contre moi ou apportez votre témoignage. Un, devant le Seigneur, deux, devant le roi. Il est clair, hein ? Devant le Seigneur et devant l'homme qui a reçu son onction. Et il va faire une liste des choses qui pourraient lui être reprochées en tant que sacrificateur. De qui ai-je pris le bœuf ? Bœuf, c'est aussi le symbole de toute la nourriture. De qui ai-je pris l'âne ? L'âne, c'était aussi le symbole de tout ce qui sert pour les déplacements. C'était la deux chevaux de l'époque. Qui ai-je opprimé ? Qui ai-je écrasé ? De qui ai-je accepté un pot de vin ? Pour fermer les yeux sur son cas. Dites-le-moi et je vous rendrai votre dû. Bon, que les choses soient claires. Hein. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Est-ce que j'ai profité de mes responsabilités pour mon intérêt personnel ? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que j'ai profité d'être votre chef pour m'engraisser sur votre dos ? Avantage, argent, orgueil, domination. Est-ce que, peut-être aussi j'ai pensé, est-ce que j'ai été comme mes fils ? Autrement dit, je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame avec eux. Hein. Donc, mettons-nous tout de suite au clair. Ce que vous avez reproché à mes fils, est-ce que vous me le reprochez à moi aussi ? Je suis redevable devant vous, devant le roi et devant le Seigneur. J'accepte qu'on me le dise et je suis prêt à réparer. Et là, c'est une très très belle attitude de sa part. Même si lui, il était assez tranquille, parce que, bon, justement, il n'avait pas désobéi à Dieu dans ces domaines-là, mais il voulait que les choses soient claires avant de partir. Accepter la redevabilité. C'est ça qui est très difficile pour l'être humain. C'était lui le leader, c'était lui le chef du peuple. Pourquoi est-ce qu'il acceptait d'être remis en question ? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Accepter la redevabilité. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je suis redevable devant vous, c'est-à-dire devant le peuple. Et tous les gens qui servent dans l'Église, depuis le pasteur jusqu'à tous ceux qui ont un service dans l'Église, et c'est quasi la majorité chez nous, on est redevable. On est redevable envers les autres. On n'est pas, on fait pas cavalier seul. On n'est pas des électrons libres. On est tous redevables de ce qu'on fait. Et peut-être, parfois, on a besoin de s'en rappeler parce qu'on est humain. Hein. Et on a cette tendance, surtout en notre siècle, de dire « c'est ma vie, je fais ce que je veux ». Ben non, c'est pas ma vie. D'ailleurs, vous avez vu, quand on dit « c'est ma vie, je fais ce que je veux », on plante un avion dans la montagne parce qu'on est déprimé. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais enfin... C'est ma vie, je fais ce que je veux. J'entraîne 150 personnes avec moi, mais c'est pas grave, j'ai pas vu. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de tordu dans ce siècle. C'est ma vie, je fais ce que je veux, mais je peux faire des tas de trucs qui vont abîmer des tas de gens. Bon, ça, c'est un gros exemple hein, qui vient apporter de l'eau à mon moulin, mais il y a des exemples moins gros hein, quand même. Mais attention à ce truc de dire c'est ma vie, je fais ce que je veux, parce que ce que je fais, ça va rejaillir sur les autres. Dans les grands magasins, parfois, je ne sais pas s'il y en a encore, mais j'en avais vu pendant un temps, tout ce qui est volé, etc., fait monter les prix, tout simplement. Bah, donc les autres vont payer plus cher parce que c'est ma vie, je fais ce que je veux. Vous voyez, ça fait réfléchir ça. Bon, la redevabilité pour tous ceux qui servent le Seigneur, dans l'Église, au travail aussi, bien sûr, dans la société aussi. Mais c'est important. Il accepte le grand Samuel d'être redevable. Bon, vous allez me dire, c'est facile, il n'avait rien à se reprocher. Ok, mais il accepte quand même d'être redevable et peut-être quelqu'un aurait pu lever la main en disant « Oui, un jour, t'as dit ça ou t'as fait ça. » Bon, ils n'ont pas osé apparemment. Mais c'est un modèle et surtout c'est un modèle dans l'Ancien Testament. Parce qu'avec Jésus, c'est assez évident. Hein. Mais dans l'Ancien Testament, le grand homme de Dieu, oint de Dieu, prophète, qui parlait de la part de Dieu et pas de la rigolade, hein, 100%, il accepte d'être redevable. Et ça, je pense que c'est un modèle pour nous. Un modèle, alors aussi, c'est un modèle pour Saül. Qu'est-ce qu'il a au moment où il prend son pouvoir? Il a en face de lui un modèle de redevabilité. Et d'ailleurs, on va le voir tout au long de ce texte. Samuel va dire, vous et votre roi, vous périrez si vous obéissez pas à Dieu. Vous et votre roi, si vous suivez le Seigneur, là, 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 là. Vous et votre roi. C'est-à-dire qu'il les met un peu sur le même niveau, au niveau de la redevabilité. Il a beau être roi, il est redevable envers vous et envers Dieu. Voyez, la notion de monarchie, hein, ce n'était pas Louis XIV. Hein. Loin de là. Avec le Seigneur, c'est le roi et le peuple qui sont redevables. C'est important. Donc, tous les responsables, qu'on soit dans la société, dans le travail, dans la famille, dans l'Église, on a ce sens de redevabilité. Hein, ça, c'est important. Alors, le peuple va répondre, « Tu ne nous as pas opprimés, ni écrasés, tu n'as rien accepté de personne. » Autrement dit, on reconnaît ton honnêteté, ton intégrité, ta justice, ta droiture, ta bonté, hein, tu n'as pas écrasé, ton respect, et tu n'as pas fait de préférence. Aïe, aïe, aïe. Alors là, vous savez, quand je parle au cinquième, quand je prononce le mot préférence, « Ouh, madame, moi, mes parents, ils préfèrent mon frère, moi, mes parents, ils préfèrent ma sœur. » Et on en entend, hein. Et parfois, je leur dis, « Mais vous êtes sûre de ça ?» Ou c'est une impression que vous avez. Et là, ils sont un peu plus honnêtes, ben, c'est peut-être une impression. C'est une impression. Dans la majorité des cas, ça va être une impression. Bon, il y a quelques cas où c'est vrai, évidemment. Mais attention, pas de préférence. Pas de préférence. Samuel ne faisait pas de préférence. Il n'allait pas accepter un peu d'argent pour préférer l'un à l'autre. C'est important. Et notre cœur humain va forcément faire des préférences. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être impie avec tout le monde au même niveau. Mais dans un cas difficile, attention, pas faire de préférence. Avec nos enfants. Oh, c'est difficile parfois. Il y en a un qui va être beaucoup plus calme, l'autre beaucoup plus agité. Moi, je vois en classe, hein, les élèves calmes, moi, je les aime bien. J'essaie de pas trop le montrer. Les élèves agités, oh, ce qui m'énerve. Bah oui, attention aux préférences. Parce qu'ils le sentent, hein. Ils le sentent. Le peuple, là, cette fois, ne trouve rien à redire. Et avant de partir de son poste, Samuel voit que tout est clair. Il veut ça parce qu'il connaît le cœur tortueux de l'être humain. Il sait bien qu'une fois parti, ils vont peut-être blablater un peu, donc il se méfie. À cause du comportement de ses fils, je ne veux pas être assimilé à leur façon de faire. Et puis, donc, il montre un exemple à Saül, un exemple de droiture et de redevabilité. Et Saül a bien marché là-dedans au début. Alors là, la notion d'exemple, j'avais fait un message là-dessus il y a des années. J'avais bien aimé d'ailleurs ce message parce que ça m'avait parlé à moi. Qu'on le veuille ou non, par nos actes, on va inspirer les autres. Ah, mais moi, je ne cherche pas à être un exemple pour personne. Mais de toute façon, tu l'es, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Dans le bon et dans le mauvais sens. Oh, mais bon, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Mais voilà. On est un exemple. Et là, si vous voulez des textes bibliques, Jean 13, 15, 1 Corinthiens 10, 6, Jacques 5, 10, et j'en passe, et des meilleurs, on est forcément un exemple. Donc, si on fait quelque chose de mal, les gens vont dire, ben, lui, il l'a fait, donc je peux le faire. Oh, vous n'avez jamais entendu ça, bien sûr. Vous ne l'avez jamais dit, j'espère, non plus. Et voilà, on est un exemple, qu'on le veuille ou non. Donc, attention à notre comportement. On vit en société. On n'est pas des moines au milieu du désert. Ceux-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais nous, non. On vit en société. On est un exemple. Alors, être un exemple, attention. Alors, il ne faut pas tomber non plus là dans une autre dérive du fait d'être un exemple. Ça ne veut pas dire chercher à être parfait, apparemment, pour que tout le monde nous trouve très bien. Ça n'existe pas, la perfection. Ça n'existe pas. Du tout, du tout, du tout. Et ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir l'air parfait. Certains chrétiens pensent ça. Mais pas méchamment, hein. Je veux dire, sincèrement, il faut que je sois parfait parce que je dois être un bon exemple. Alors, ils sont tout le temps crispés. J'ai mal aux pieds, mais je vais marcher droit parce que faut que j'ai l'air en bonne santé. Je suis déprimée aujourd'hui parce que bah, y a eu un deuil dans la famille, mais je ne pleure pas parce qu'il faut que je sois un bon exemple. Il y a des chrétiens qui marchent comme ça. Non, 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 non. Être un exemple, c'est être authentique. Marcher avec le Seigneur, mais dans la vérité. Et il faut savoir dire, je suis déprimée aujourd'hui. J'ai besoin compris pour moi, j'ai mal aux pieds, ou je me fais du souci, je sais que je ne devrais pas, mais je me fais du souci. On est humain. Hein? Et attention de ne pas chercher à être parfait. Parce que de toute façon, c'est un mensonge. Donc, le père du mensonge, c'est Satan, c'est pas Dieu. Hein, donc, soyons authentiques. Ça va pas, ben ça va pas. Hein, bon, il s'agit pas non plus de faire rejaillir sa colère sur le monde entier. Un peu de maîtrise de soi, d'accord, mais pas trop non plus. On est ce qu'on est devant Dieu. Dieu nous aime tel qu'on est. Il est mort pour des gens tels qu'ils étaient. Hein. Et attention à l'authenticité. Moi, je suis touchée par les gens authentiques. Les gens artificiels, même si je les aime bien, il y a quelque chose, quoi. Je ne sais pas si vous sentez, c'est... Ah, c'est pas ça, quoi. On a plutôt de la peine pour eux, d'ailleurs. Hein. Donc, attention, dans la famille, au travail, bah, il faut savoir demander pardon quand on fait une bêtise. Il faut savoir pardonner les autres aussi, abandonner nos erreurs, être authentique, quand même, hein. Même si on sait qu'on doit être un exemple. Et d'ailleurs, l'exemple de celui qui fait une bêtise et qui demande pardon, croyez-moi, ça a plus de poids que celui qui fait jamais de bêtises. Hein, moi, j'étais frappée, même mon Evelyne est partie, mais le maire, pour quelqu'un, moi, il était croyant, il n'était pas engagé avec le Seigneur, j'étais étonnée de la façon dont il était capable, quand on le coinçait et qu'on lui râlait dessus, ce que je ne me gênais pas de faire, de dire, c'était sa façon de s'excuser, de dire, autant pour moi. C'est-à-dire, bon, j'ai gaffé. Il faut reconnaître, il faut être authentique. Alors, ce troisième point, ça mène à accepter d'être jugé par le peuple. Et, conclusion, vous n'avez rien trouvé dans ma main, vous êtes témoin, le Seigneur est témoin. Et ils répondent, témoin. Ça veut dire oui. Dans ce temps-là, il n'y a pas de mot pour dire oui, paraît-il. Donc, il répétait le dernier mot, vous êtes témoin, témoin. Et là, il rentre dans son rôle de prophète, l'homme qui parle de la part de Dieu et pour Dieu. Autrement dit, vous n'avez rien à me reprocher. Maintenant, là, il va changer de ton. C'est ça qui m'a un peu déboussolée au début dans ce texte. Il change de ton. Maintenant, je vais vous montrer. Vous n'avez rien à me reprocher, mais moi, je vais vous montrer ce que Dieu a à vous reprocher. Ils ont été gentils. Ils lui ont dit, bon, c'est bon, on ne te reproche rien. Puis là, il est là, maintenant. Et là, il parle en tant que prophète. Moi, je vais vous dire ce que Dieu a contre vous. Je vais vous dire ce qui ne va pas chez vous. C'est lui qui va vous reprocher des choses. Il rentre dans son rôle de prophète. Et c'est ça que je n'avais pas compris au début dans le texte. Je ne comprenais pas quand il changeait comme ça. Il rentre dans son rôle de prophète et il va entamer un discours d'alliance, un peu comme dans l'Orient ancien, où on commençait par l'historique de la situation. Entre parenthèses, c'est bon parfois de rappeler les choses que Dieu a faites pour nous et le trajet qui nous a amenés là où on en est. Parfois, ça nous aide à voir plus clair. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, c'est ça que je n'avais pas compris au début. Le voilà parti. Alors, Samuel dit au peuple... C'est le Seigneur qui a nommé Moïse à Aaron. Waouh ! Parfois, je reproche à André de redémarrer la Genèse, mais vous voyez, c'est biblique. Alors Samuel dit au peuple, c'est le Seigneur qui a nommé Moïse à Aaron, qui a fait monter d'Égypte nos pères. Maintenant, tenez-vous debout. Vous voyez, ça y est, c'est le jugement là. J'entrerai en jugement avec vous, devant le Seigneur, sur tout ce que le Seigneur a fait pour la justice, avec vous et avec vos pères. Après que Jacob est venu en Égypte, vos pères ont crié vers le Seigneur. Attention, il touche le point sensible. Vos pères ont crié vers le Seigneur a envoyé Moïse et Aaron qui ont fait sortir vos pères d'Égypte et les ont fait habiter dans ce lieu. Mais ils ont oublié le Seigneur, leur Dieu qui les a vendus à Sisra, chef de l'armée de Hatsor, aux Philistins et au roi de Moab qui leur ont fait la guerre. Ils ont crié vers le Seigneur, nous avons péché, nous avons abandonné le Seigneur Yahvé et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Le Seigneur a alors envoyé Yerubal, c'est Gédéon, puis Bédan, on pense qu'il s'agit de Barak en fait, hein, Jephté et Samuel. Il vous a délivré de la main des ennemis qui vous entouraient et vous avez pu habiter en sécurité. Puis voyant que Naash, et là c'est le point aussi où il veut appuyer, voyant que Naash, roi des Ammonites, arrivait sur vous, vous m'avez dit non. Ah tiens, vous avez remarqué avant, ils ont crié, ils ont demandé, ils ont promis de plus servir les Baals. Et là, vous avez crié, vous avez dit non, il faut qu'un roi règne sur nous. Et c'est là qu'il les attend. Ah, jusqu'à présent, vous avez vu depuis Abraham, oh là là, vous avez crié à Dieu chaque fois que vous aviez des ennuis, Dieu, oh Seigneur, viens à notre secours. Et là, maintenant, c'est non, il faut qu'un roi règne sur nous. Et il explique, alors que c'est le Seigneur votre Dieu qui est votre roi. Maintenant, voici le roi que vous avez choisi, celui que vous avez demandé, puis il insiste lourdement, hein, celui que vous avez demandé. Le Seigneur a placé un roi à votre tête. Vous voyez, il le répète sur tous les tons. si vous craignez le Seigneur, si vous le servez, etc. Donc, première partie, on va le faire dans l'ordre. Hein. Il leur rappelle comment ça s'est passé depuis le début. Et puis, il rentre dans le procès. Tenez-vous debout, j'entrerai en jugement avec vous. Et je me suis dit, ouais, il est dur. Mais j'ai mis face à face, parce que quelquefois, c'est bien quand on lit la Bible d'écrire. Hein. Ils ont crié, le Seigneur a envoyé. Ils ont oublié, il les a vendus aux ennemis. Ils ont crié, le Seigneur a envoyé. Des gens pour les délivrer, évidemment. Hein. Ils ont reconnu leur péché, le Seigneur les a délivrés. Et puis là, il y a une rupture. Ils ne crient plus, ils disent, on veut un roi. Et là, c'est là qu'ils voulaient en venir. Vous vous rendez pas compte le culot que vous avez ? Depuis Abraham, chaque fois que vous avez crié à Dieu, il vous a répondu. Chaque fois que vous avez désobéi, il vous a pardonné, quand vous vous êtes repenti, bien sûr. Chaque fois que vous avez redemandé de l'aide, il vous a délivré. Et là, vous avez dit non. Et il insiste, hein, non, nous voulons un roi. Et moi, je ne pensais pas que c'était aussi grave que ça. Même la dernière fois, quand j'en ai parlé, je ne me rendais pas compte de la gravité que ça avait. Ça veut dire que depuis des siècles, vous êtes soumis à Dieu, vous marchez avec lui, il vous répond, il vous délivre, il vous pardonne. Et le résultat de ces siècles de fidélité à l'alliance de la part de Dieu, c'est non, on veut un roi. C'est gros quand même. Hein. Dieu a montré sa fidélité. Lui, il a tenu parole, il a tenu sa part de l'alliance pendant des siècles. Et maintenant, vous voulez un roi. Ah, c'est plus clair comme ça. Et il place le peuple face à ses responsabilités. Chaque fois que vous avez crié, vous avez été délivré. Cette fois-ci, vous avez préféré demander un roi. Maintenant, c'est fait. Il est là, votre roi. Et curieusement, on ne revient plus là-dessus. Et ça, ça m'a intriguée. Et voici maintenant la nouvelle alliance. C'est ça, en fait. Vous avez un roi, donc l'alliance est un petit peu différente. Voici les termes de l'alliance. Et on va les lire, versets 13 à 16. Alors, 13 à 16. Maintenant, voici le roi que vous avez choisi, celui que vous avez demandé. Le Seigneur a placé un roi à votre tête. Si vous craignez le Seigneur, alors écoutez bien, si vous craignez, toujours un si, hein. Si vous le servez, si vous l'écoutez et si vous n'êtes pas rebelle aux ordres du Seigneur, bon, ça fait beaucoup, vous suivrez, là on a encore cette notion de suivre derrière, marcher derrière, hein. Vous suivrez le Seigneur votre Dieu, vous et le roi. Vous et le roi qui règne sur vous. Donc il ne s'agit pas de se dire, allez, c'est lui qui se débrouille, c'est les deux ensemble. Devant Dieu, c'est des hommes pareils, même s'il a une onction. Si vous suivez le Seigneur, vous et le roi qui règne sur vous. Terme de l'alliance, voilà les conditions. Donc on rappelle les conditions, craindre le Seigneur, le servir, l'écouter, ne pas être rebelle, et le suivre, et le roi aussi, qui doit le suivre. Ça fait pas mal de conditions, hein? Et maintenant, les conditions négatives, si vous ne pas, hein, si vous n'écoutez pas, si vous êtes rebelle, la main du Seigneur sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Le passé nous enseigne, hein, ce qui s'est passé dans le passé, ça va forcément se reproduire. Voilà donc les conditions claires de l'alliance que Dieu refait avec le peuple et avec le roi. Autrement dit, avant, les conditions de l'alliance étaient avec le peuple. Maintenant, il ajoute le roi, c'est pour ça qu'il se répète. Parce que je m'étais dit, mais il le savait tout ça. C'était bon de le redire. Et le roi, maintenant, c'est un peu nouveau. C'est l'alliance aussi avec le roi. Il n'est pas déifié, entre parenthèses, hein, comme chez le Pharaon. Le Pharaon était un dieu. Le roi des Hébreux est un homme. Même s'il a l'onction, même s'il peut être rempli de l'esprit, c'est quand même un homme qui doit marcher avec le Seigneur. Sinon, vous périrez, vous et votre roi. C'est clair. C'est pour ça que parfois, on est un petit peu... Peut-être un petit peu trop à cheval sur les notions d'onction. Ah mais cet homme, il a l'onction de Dieu. En plus, dans le Nouveau Testament, c'est encore un petit peu plus difficile. Attention, l'onction ne fait pas tout et elle ne garantit pas de l'erreur. Parce que le roi avait l'onction royale, à l'époque c'était important, donné par le prophète, etc. N'empêche que quand il n'était pas bon, il n'était pas bon. Et si vous et votre roi, vous vous détournez, vous périrez tous, vous et votre roi. Attention, hein, n'y a pas cette hiérarchie, comme quoi il a l'onction, donc avec lui, ça sera un peu différent. Je crois même que parfois, il est plus responsable encore que les autres. C'était une aparté. Samuel voit bien que malgré ses avertissements, qu'il avait déjà donnés, hein, chapitre 8, verset 1 à 6, chapitre 8, verset 19 à 20, le peuple n'avait toujours pas assimilé le fait qu'ils avaient péché en demandant un roi. C'est ça que je n'avais pas compris au début. J'ai dit, mais pourquoi il revient là-dessus ? Eh bien, il a compris que le peuple n'avait toujours rien pigé. Ben, on a demandé un roi comme les autres nations. So what? Et alors, où est le problème? Ben, c'est vrai. Et alors, où est le problème, quoi? Et on sentait qu'ils... C'est pas qu'ils s'en foutaient, je sais pas, mais ils n'avaient pas pigé. Parce que ça m'a tourné dans la tête, mais pourquoi ils se répètent comme ça? Et il veut leur donner une preuve tonitruante, c'est le cas de dire. Il va leur dire... Il a essayé de leur faire comprendre que c'est un manque de confiance en Dieu. Vous n'avez pas voulu marcher derrière Dieu. Dieu travaille avec moi. Et Dieu désapprouve votre demande. Comment leur faire piger ça? Visiblement, ce n'était pas assimilé, mais pas du tout, du tout. Alors il dit quelque chose qui m'a étonnée au début. Maintenant, tenez-vous debout. C'est toujours en jugement. Hein. Regardez cette grande chose que le Seigneur va faire sous vos yeux. N'est-ce pas la moisson des blés aujourd'hui? Il ne pleut pas en Israël à cette époque-là. Jamais. J'invoquerai le Seigneur et il fera retentir des coups de tonnerre et tomber la pluie. Ça peut gâcher les récoltes, ça peut créer une famine, hein? Attention. Ainsi, vous verrez bien que vous avez très mal agi aux yeux du Seigneur en demandant un roi. De quoi il s'agit là? Bah, d'une conviction de péché. J'ai mis du temps, je dis, mais pourquoi il a fait ça? Le roi était déjà nommé, gna gna gna. Mais il voulait qu'ils comprennent qu'ils avaient mal agi, parce que visiblement, ils étaient dans la réjouissance. Le roi avait remporté la victoire, tout va bien, on n'a tué personne, on est des grands, on est bons, on est sages. Tout va bien. Et il dit, mais non, mais vous avez toujours rien compris. Mais vous avez toujours rien compris, vous avez rejeté votre Dieu. Alors, Seigneur, on va faire quelque chose de grand là. Tonnerre et la pluie en pleine moisson. Moi, je vois bien que mes voisins, hein, quand il pleut au moment de couper, de faire la moisson des blés ou autre chose, hein, ça leur fait peur. Hein. Donc j'imagine, la crainte de la famine à l'époque, c'était pas de la rigolade, il n'y avait pas de supermarché. Crainte de la famine si la pluie tombe au mauvais moment, avec le tonnerre qui leur faisait très peur. Dieu, d'une certaine manière, leur dit, écoutez, il faut que vous compreniez ce que vous avez fait. Vous avez toujours rien compris. Parce que j'ai laissé filer, parce que je vous ai donné la victoire, parce que je vous ai donné le roi que vous demandez, ben vous croyez avoir tout bon. Eh bien non, vous n'avez pas tout bon. Votre attitude envers moi n'est toujours pas claire. Alors, on va vous montrer. Samuel invoqua le Seigneur le jour même. Le Seigneur fit retentir des coups de tonnerre, tomber la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte du Seigneur et de Samuel. Tout le peuple dit à Samuel, prie le Seigneur, ton Dieu. Oh, j'aime pas ça. Pour nous, tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés celui de demander un roi. Ça y est, ils ont compris. C'était pas trop tôt. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que parfois on n'est pas comme ça aussi? Parce que le Seigneur ne nous tombe pas dessus à bras raccourcis. Parce qu'il nous laisse filer. Est-ce que parfois on se dit, bah, tout va bien. Et on a besoin d'une conviction de péché. Et est-ce que ça ne vaut pas le coup? Parfois, moi, je ne demanderais pas le tonnerre et la pluie quand même. Hein. Dans notre vie, ça peut être des choses. Mais que le Seigneur nous parle. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Hein. Ce verset est beau, c'est ça. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parfois, nous, on ne s'en rend pas compte. Les gens nous le disent. Ouais, bon, ils sont gentils. Mais bon, ça va, je ne suis pas pire que les autres. Hein. D'abord, les autres, ils font ça et ça. Voilà. Donc, attendons pas qu'il se passe tonnerre et pluie au moment de la moisson. Mais demandons à Dieu de nous parler. Et réglons ça au plus vite, si on n'est pas sur le bon chemin. Ils ont enfin compris. Et malheureusement... Moi, c'est ça qui me gêne dans ce passage. Ils ne sont pas dans la relation avec Dieu comme Samuel. Vous avez vu, Samuel, il sent le cœur de Dieu. Il sent la peine de Dieu qui est rejetée par son peuple. Vous voyez, c'est sentimental. Il y a des sentiments dans la foi. Hein. Il sent le cœur de Dieu. Mais eux, ils sont dans quoi? Ben, ils ne sont malheureusement pas dans la relation. Ils sont dans le magico-religieux, comme dit Poujol. Il faut du spectaculaire. Boum! Je tenais. La pluie, le risque de famine, il faut des trucs qui vous ébranlent. Ah, tu existes, tu es puissant. Hein? Alors n'attendons pas ça. Essayons d'entrer dans la relation avec Dieu. C'est pas si simple, hein? C'est simple pour le cœur d'enfant. C'est pour ça que Jésus disait, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Parce que c'est un cœur à cœur, parce que c'est une relation. Et on a du mal avec ça. On a du mal parce qu'on est des grands. Misère. Samuel va répéter l'alliance, alors on va la prendre, verset 20-25, puis je vais pouvoir terminer. Comme ça, on va terminer Samuel. Voilà, j'aime beaucoup cette fin. Ne vous écartez pas. Alors, Samuel dit au peuple, n'ayez pas peur. Ah, ça c'est le cœur de Dieu. Maintenant que vous avez été bien ébranlé, que vous avez compris que vous avez péché, il rassure. N'ayez pas peur. Vous avez fait tout ce mal. On ne nie pas. On ne rentre pas dans le déni. Oh, mais après tout, on n'était pas si vilain que ça. Non, vous avez fait tout ce mal. Ok, vous l'avez fait. Mais ne vous écartez pas du Seigneur. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Ne vous écartez pas de lui pour vous rallier à du néant qui n'apporte ni profit ni délivrance parce que ce n'est que du néant. Dans d'autres versions, vous avez les idoles, hein, je pense, qui sont du néant aux yeux de Dieu, évidemment. Tout ce qui est idole, je ne reviendrai pas là-dessus. Le Seigneur ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom. Donc, voyez, l'amour de Dieu, après avoir montré sa force, et vous dites, ça y est, vous avez compris que vous avez péché, bon, ben maintenant, attendez, ne restez pas dans la trouille, ne restez pas dans la crainte, dans la peur. Allez, maintenant, Dieu est avec vous. Il ne vous délaisse pas. Maintenant, c'est à vous. Ne vous écartez pas de lui. Ne vous ralliez pas aux idoles. Ne vous ralliez pas aux idoles. Et là, alors, c'est le passage pour vous encourager, pour terminer. J'espère que, voilà. Le Seigneur ne délaissera pas son peuple. Pourquoi ? Parce qu'il est bien son peuple, parce qu'il a demandé pardon, parce qu'il s'est bien comporté. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous délaisse pas ? Parce que finalement, on n'est pas si mal que ça, les voisins sont pires que nous. À cause de quoi Dieu ne nous délaisse pas ? À cause de son grand nom. Alors nom, ça couvre plein de choses, hein. Chez les Hébreux, c'est l'identité, la réputation, la puissance d'une personne, son nom. Hein, à cause de son grand nom. Ça m'a fait réfléchir quand cet Allemand-là a dit qu'il voulait que son nom soit connu. Oh Seigneur. Hein, à cause de son grand nom, il ne nous délaisse pas. Ce n'est pas parce qu'on est chouette qu'on est bien. Et alors, deuxième chose. Le Seigneur a décidé de faire de vous son peuple. C'est lui qui a décidé. C'est à cause de ça qu'il ne nous délaisse pas. C'est sa décision. Et c'est à cause de lui, à cause de son nom, sa réputation, son identité, à cause de qui il est, il ne nous délaisse pas. Waouh ! Ça nous rassure, hein ? Parce que si ça dépendait de nous, on serait mal partis, hein ? Jamais je ne pécherai contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Ça veut dire que Dieu exigeait que le prophète continue à prier pour le peuple. C'était un ordre de Dieu. Et Samuel décide d'obéir. Je prierai tout le temps pour vous. Sympa. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'un peu similaire. Nous avons un avocat auprès du Père. Ça ne ressemble pas, non ? Voilà, Jésus, notre avocat. Je vous enseignerai le chemin qui est bon et droit. C'est notre responsabilité. Pour nos enfants aussi. Enseigner le chemin qui est bon et droit. Responsabilité pour nos enfants. Jamais je ne pécherai contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Autrement dit, quand on ne prie pas pour nos enfants, on pêche contre le Seigneur. Ça, j'en suis sûre. Seulement, craignez le Seigneur et servez-le loyalement de tout votre cœur. Qu'est-ce qu'on dit parfois? Si ce n'est pas tout votre cœur, ce n'est pas du tout. Voyez les grandes choses qu'il a faites avec vous. Où est-ce qu'on porte nos yeux sur les grandes choses que Dieu a faites? Mais si vous faites de mal, c'est rapide, vous serez emporté, vous et votre roi. C'est réglé. Mais l'alliance, elle est belle. Elle est belle. Et en voyant la compassion de Samuel pour le peuple, quand il dit, n'ayez pas peur. Hein, après le péché, après avoir reconnu notre péché, nos fautes, nos manquements, puis nous, on a des listes comme ça, hein, si on était honnête. Qu'est-ce qu'on entend de la part de Dieu? N'ayez pas peur. Vous avez reconnu vos fautes. Nous avons reconnu nos fautes. N'ayez pas peur. Vous avez mal agi, c'est ok. Hein, Dieu n'efface pas comme ça, ouh, vous avez tout bien fait. C'est... Non, non, vous avez mal agi. C'est fait. Mais maintenant, faites votre part de l'alliance. Et si vous avez conscience ces derniers temps d'avoir fait des trucs vraiment qui déplaisent à Dieu, ou d'avoir dit ou pensé des trucs qui déplaisent à Dieu vraiment, bah, on fait comme eux. Hein. On reconnaît, Seigneur, j'ai mal agi. Mais maintenant, je veux faire ma part de l'alliance. Parce qu'à cause de ton nom, toi, tu tiendras tes promesses. À cause de ton nom, toi, tu tiendras ta part de l'alliance. En résumé, craignez le Seigneur, servez-le loyalement de tout votre cœur et voyez les grandes choses qu'il a faites. C'est quand même un beau programme. Craindre le Seigneur, le servir de tout son cœur et voir. Et qu'est-ce qu'on a devant nos yeux? Tout ce qui ne va pas. On est français en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? Tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne marche pas. Hein, la tache au milieu de la feuille blanche. Et qu'est-ce qu'il dit? voyez les grandes choses qu'il a faites. Donc regardez un peu tout ce qu'il a fait, toutes les choses qu'il a faites dans le passé. Et si vous faites du mal, vous serez emporté, vous et votre roi. Après toutes ces années, Samuel est resté patient et compréhensif. Et moi, je trouve c'est une bonne image de Jésus. Après toutes ces années qu'on a passées avec lui, il reste bon et compréhensif, patient. Parce qu'il a accepté de se repentir, bien sûr. Il va vers un nouveau départ, une alliance renouvelée avec Dieu, un dernier avertissement. Ça se termine comme ça, le discours, mais on retrouvera Samuel. Mais gardons à l'image ce Dieu qui dit bon, qui est à Malachie. Mais maintenant, garde ta part de l'alliance. Reprends, crains Dieu, serre-le de tout ton cœur. Autrement dit, une fois qu'on a été pardonné par Dieu, qu'on a confessé son péché, la vie recommence. J'aimais beaucoup ce chant qu'on chantait dans l'évangélisation quand on était jeune. On chantait ça dans les rues. Tu peux repartir à zéro, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Et ça, c'est vrai pour nous aussi aujourd'hui. S'il y a des trucs qui n'ont pas marché dans notre vie la semaine dernière, il y a un mois, OK. On demande pardon à Dieu, on reconnaît, oui, j'ai mal agi. Ça, il n'est pas question de dire, oh, mais finalement, ce n'était pas grand-chose. Oui, mais je redémarre une nouvelle alliance avec le Seigneur, parce que lui, il n'a pas bougé. Ça, c'est extraordinaire. Lui, il est resté fidèle, il est resté plein d'affection. Waouh, quel Dieu!